Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 8 avril 2015. C'est la 62e émission. Christophe Rollin au micro, Gérald est également présent aujourd'hui et nous avons même une invitée. Quelle invitée ? Cécile Bergame, une conteuse qui va nous parler pendant toute cette heure d'elle-même, de ses spectacles qui sont actuellement en cours et de ses tournées. J'ai entendu dire qu'elle se rendait dans le Var, vers Saint-Raphaël. Et puis voilà, donc comme d'habitude, c'est l'invité qui fait la matière de l'émission. Premier temps, l'invité se présente, et puis deuxième temps, donc plus précisément, ses projets en cours ou ses projets à venir. Voilà, c'est jusqu'à 15h comme tous les mercredis. C'est sur Radio Canu. Vous pouvez nous écouter donc à Lyon, le 102.2 de la bande FM, ou bien sur radiocanu.org. Et nous commençons avec une première chanson, plus ou moins en rapport avec l'émission. Je demanderai à Gérald de pourquoi notre programmateur musical a-t-il décidé de nous faire entendre La pêche à la baleine de Jacques Prévert. Ouais, c'est peut-être une sorte de conte. Voilà, nous commençons avec cela et nous continuons ensuite avec Cécile Bergame.
J'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa. Va la pêcher, va la pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau.
Le père apparaît en haleine, tenant la baleine sur son dos.
Il jette l'animal sur la table,
une belle baleine aux yeux bleus.
Une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable:
dépêchez-vous de la dépêcher, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger.
Il a faim, il a soif, il veut manger.
Mais voici Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus.
Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part.
Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare.
Et se précipitant sur le père, elle transperce le père en pas. Ah ah,
dit le cousin à Gaston,
ça me rappelle la chasse aux papillons.
Et voilà.
Voilà Prosper qui prépare les faire part la mer.
Soudain, elle s'écrie, et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en mode que dire, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatons d'un rire inquiétant.
Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant:
Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez.
La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la.
Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra.
Et voilà. Elle reviendra, je crois. Non, Gérald, je ne vais pas oublier de dire bonjour. Bonjour, Gérald.
Bonjour, Christophe.
Et donc, bonjour, Cécile.
Bonjour.
Bonjour.
Cécile, une conteuse, et c'est peut-être la raison pour laquelle, Gérald, tu souhaitais faire écouter cette pêche
en
à
fait,
la baleine.
Cécile Bergam, ici présente, conteuse, écrivain pour la jeunesse, entre autres, des spectacles pour adultes et pour enfants, que nous devions recevoir il y a déjà bien des mois. Il y a eu des...
On a dit qu'on n'en parlerait pas.
Ouais, donc, bon, allez, on n'en parle pas. Enfin, elle est là, la voilà, et elle va pouvoir nous parler de toutes ses multiples activités. Et c'est elle qui a choisi, j'avais amené comme d'habitude une présélection de divers musiques, en lien avec, comme d'habitude, nos invités. Et donc c'est elle qui a choisi hein, la chasse à la baleine, interprétée par les frères Jacques, un texte de Jacques Prévert, extrait d'un album Souvenir. Alors pourquoi cette chanson, Cécile, alors, Bergam?
Alors, donc je l'ai choisi dans la présélection, hein, je ne sais pas si je l'aurais choisi moi-même, mais au fond c'est une bonne entrée en la matière, parce qu'en en réécoutant la chanson, donc je me suis rappelé effectivement que c'était une chanson que j'avais apprise à l'école primaire, et qui m'est restée. C'est intéressant parce qu'au fond, enfin tout mon travail, on en reparlera certainement, mais au fond, ce qui me fascine dans l'enfance, c'est que justement c'est ces souvenirs qui sont si marquants, qui sont ceux de l'enfance. Et donc cette chanson, voilà, elle m'est revenue, et il se trouve que j'étais dans une... À l'époque, quand j'étais à l'école primaire, j'étais dans une école Fresnel. Donc j'ai beaucoup écouté de chansons. Je suis beaucoup allée au théâtre. J'ai beaucoup d'artistes qui sont venus dans ma classe. Et quelque part, tout cela a sans doute déterminé ce que je suis, ce que je fais aujourd'hui. Donc je trouvais que c'était, au fond, en la réécoutant, une bonne façon d'introduire la façon dont peut-être j'en suis venue petit à petit à raconter des histoires.
Pour préciser peut-être la pédagogie Freinet pour nos auditeurs, une forme de pédagogie alternative.
Oui, voilà, c'est partie des pédagogies éducatives un peu nouvelles. À l'époque, c'était pas une école Freinet en tant que telle, hein, c'est-à-dire qu'on expérimentait de nouvelles pédagogies, et il se trouve que l'école publique dans laquelle j'étais donc fait partie du lot, et donc c'était un enseignement ouvert entre autres sur les matières artistiques beaucoup, et où on laisse l'enfant
expérimenter.
Ouais, expérimenter,
apprendre avec plaisir, c'est un gros problème aujourd'hui, l'apprentissage sans plaisir.
Voilà.
Ouais, ça serait peut-être une bonne idée de revenir à des pédagogies basées sur le plaisir d'apprendre, parce que là,
oui, voilà, un lieu où l'apprentissage est érotisé, je dirais d'une certaine façon, où on amène l'enfant à apprendre dans le plaisir. Voilà.
Il y a aussi Montessori comme notre pédagogie.
Oui, alors après moi je connais pas toutes les différences, mais en fait une façon. Une façon de revisiter les apprentissages, voilà.
Qui forme la jeunesse.
Qui forme la jeunesse, sans doute les enseignants aussi. Je pense que c'était aussi une façon pour l'enseignant de se re-questionner sur l'apprentissage.
Tu as constaté, tu avais remarqué la chose, Gérald, sans le demander, j'ai obtenu cela de Cécile Bergam, à savoir se replonger dans sa petite enfance, dans son école élémentaire, dans ses années peut-être éventuellement de maternelle, pour commencer son portrait.
À Lyon donc.
À Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyon, exactement. Ah.
Bon, mais voilà, donc là c'est très bien, je ne vais pas demander des bulletins, promis. Mais nous allons continuer, alors pourriez-vous retracer, Cécile, votre parcours ensuite? Là, on a donc eu droit à la petite enfance. Et je crois avoir, je ne crois pas, j'ai lu sur votre site, à corbouillon.wix.com, je crois, c'est un site assez étrange pour ce qui est du lien. Je le mettrai sur le blog, comme toujours, tout ce que nous disons est enregistré et mis sur le blog, et puis il y a également d'autres liens. Donc il me semble avoir lu qu'il y a une sorte, vous évoquez à l'instant l'école, mais il y a également un héritage assez important chez vous de votre père et de votre mère pour ce qui est du goût des histoires, ou du goût des arts, ou du goût de... Je ne sais pas encore de quel autre, terme employé.
En tout cas, c'est ce en quoi j'ai envie de croire. Parce que les choses ne sont pas dites comme
c'est
ça.
Pas c'est toujours aussi net.
C'est-à-dire qu'on est, on est dans un bain culturel, éducatif, ou pas, effectivement. Et puis, un jour, bien plus tard, on fait des ponts avec le recul, et on se dit, tiens, peut-être que... Ah oui, je me souviens, on m'a raconté ça. Ah oui, je me souviens, ma mère me racontait ces choses-là. Et puis, on réalise que tout ça nous a construit, et quelque part, nous a à favoriser peut-être un chemin, voilà, un chemin sur lequel on s'est engagé. Alors après, effectivement, mon père donc est arrivé des Antilles très jeune en France métropolitaine avec effectivement dans ses bagages des croyances, des choses assez des histoires. Alors pas des histoires issues de la tradition orale, mais des histoires que sans doute des histoires qui se racontaient sans doute dans la cellule familiale. D'histoires de fantômes, de revenants, tout cela mélangé, enfin, des choses très syncrétiques en fait, mélangées avec des
faits divers réels.
Oui, des faits divers et puis la religion très très, enfin assez importante là-bas, religion
qui est syncrétique,
voilà.
Justement.
Oui, syncrétique, voilà, qui mélange en même temps des croyances ancestrales lointaines qui viennent sans doute de l'Afrique lointaine, mm-hmm. et puis les influences judéo-chrétienne, catholique, etc. Et puis plus l'imaginaire des uns et des autres qui a fait qu'il est arrivé avec des histoires un peu étranges comme ça, que j'écoutais, qui me faisaient peur et en même temps qui me fascinaient. Voilà, et puis ma mère qui, elle, travaillait dans le milieu hospitalier, dans la santé, et entre autres avec les enfants, les tout petits enfants, nous racontait, mais d'une façon assez, j'allais dire, informelle. Enfin, c'était pas instauré, il n'y avait pas un temps où on se racontait des histoires, mais de temps en temps, je me souviens, elle nous prenait la main, puis elle nous racontait une petite chose qui durait quelques secondes, mais qui était un moment de jubilation totale en fait, parce que au-delà de l'histoire, il y avait l'échange, il y avait le partage, il y avait quelque part, ça venait confirmer la présence de ma mère, la tendresse qu'elle partageait avec nous à ce moment-là. Donc je me rappelle très fort ces moments-là, mais encore une fois, c'était pas instauré, j'ai pas hérité d'une culture orale, voilà, plus précis, enfin dans le sens de la tradition, c'est plutôt des choses comme ça distillées dans ma vie d'enfance et qui probablement ensuite ont fabriqué quelque chose chez moi, qui ont fait qu'il y a cette fascination, tout simplement pour le fait de raconter des histoires puis de les écouter.
Et est-ce que la question s'impose, Gérald, Cécile Bergam, chercheriez-vous un rapport maternel avec notamment les petits-enfants à qui vous faites des contes, à qui vous contez vos histoires, ou non, en fait, la question est totalement hors sujet. Et
non,
le truc
pas
est
du
malvenu.
Tout.
Enfin, non, il n'y a pas.
Bah, après, moi, je...
Non, parce qu'après, on pourrait effectivement établir, définir la chose. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport maternel? Est-ce que c'est donc une affection, une empathie, de la compassion, une confiance?
Il est en train de faire une séance de psychanalyse sauvage, je sais.
Non, mais parce que hors antenne, nous nous sommes demandé, Cécile, c'était sa grande crainte, mais vous allez me laisser parler, est-ce que vous me poserez tout de même des questions? Eh bien, envoie la ligne de questions.
Je crois pas. Après, je sais pas, si j'étais allongée sur un divan, peut-être, j'en sais rien. Mais non, en fait, la question de la petite enfance et puis de l'enfance en général, elle s'est pas posée comme ça, d'une façon un peu arbitraire, et puis par hasard, et puis parce que je serais dans une nostalgie. D'ailleurs, je suis pas du tout dans une nostalgie. C'est simplement que à un moment donné, il y a eu cette rencontre avec les tout petits, et que j'ai redécouvert un monde pour le coup mystérieux, c'est-à-dire que j'ai rencontré des êtres très très proches de leur naissance, avec une façon d'être au monde dans le langage qui n'est pas forcément le langage parlé, puisque pour la plupart ils sont dans l'apprentissage de la parole, pour d'autres ils sont dans le babil, et j'ai découvert là quelque chose que j'avais oublié au fond, parce que voilà, et un vrai mystère, et ça a provoqué une espèce de trouble chez moi par rapport à qui je suis, c'est quoi un adulte, avec quoi il se construit, qu'est-ce qui reste, justement, quand je parlais de ces impressions qui marquent l'enfance et qu'on se trimballe toute notre vie, et comment on se construit, droit ou bancal, ou comment, qu'est-ce qui fait qu'on va là, qu'on va pas là, de quoi on hérite. Et en fait, ça m'a vraiment intéressée. Alors, dans le cadre de ma pratique, hein, c'est-à-dire autour du langage, de la parole, voilà. Donc, du coup, je me suis questionnée. Et en fait, alors, je continue de me questionner. Je n'ai pas fini de faire le tour. Et en fait, ça vient nourrir ma pratique de conteuse en règle générale sur la question du rythme, sur la précision, sur la justesse, sur les silences, sur le fait de se taire, écouter. Enfin, c'est vraiment un endroit, une espèce de laboratoire, en fait, pour moi, les enfants, et en plus particulièrement la petite enfance, qui m'a permis de me réinterroger sur ma pratique de conteuse, voilà. Donc c'est pas du tout un rapport maternel, même si je les trouve très mignons, très etc. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui continue de m'interroger sur une espèce de mystère, voilà. Quelque chose qu'on a oublié. Et puis je m'interroge aussi pourquoi on oublie et pourquoi quelque part c'est encore là. Enfin voilà. Donc je pense pas que ce soit quelque chose.
L'oubli est nécessaire et ce mystère c'est celui d'une proximité. Vous dites dans votre site. Quelque chose qui m'a bien plu. Le quotidien des tout-petits, contrairement à certaines croyances, n'est pas toujours rose. C'est moins qu'on puisse dire.
Oui.
Et puis c'est de pire en pire, à mon avis.
Ouais.
Vu les situations sociales auxquelles on assiste. Et vous proposez des voyages dans l'espace de tous les possibles, des bulles pleines d'un imaginaire singulier. Dans ma pratique, j'ai pu constater que les tout-petits étaient doués d'une forte capacité d'écoute et d'attention et qu'ils manifestaient un plaisir intense à se réunir et à partager ici, là et maintenant. Mais au-delà, ils montrent une vraie pertinence de lecture des signes, de la symbolique, de la gestuelle. Ils m'ont maintes fois prouvé qu'ils constituaient un vrai public exigeant et attentif. Mmh, c'est un public
absolument.
Difficile.
Oui, c'est un public difficile. Mais au fond, c'est un public rêvé. C'est-à-dire que c'est un public qui est là, maintenant, capable, alors je sais pas comment ça marche dans la tête d'un tout petit, hein, mais en tout cas, à un moment donné, capable d'être complètement disponible. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité chez les tout petits d'être total, absolu. Ce qui fait que quand ils sont là, ils sont là. Et ils sont là vraiment. Après, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va faire qu'on va, voilà, qu'ils vont rester attentifs? Ça, c'est autre chose. Mais c'est un public rêvé en ce sens-là. Après, oui, effectivement, c'est
la fameuse sagesse populaire, la vérité sort de la bouche des enfants.
Oui, ou Baudelaire disait le génie, c'est l'enfance retrouvée,
ouais,
la
etc.
volonté.
Et puis Picasso qui a pris toute sa vie à dessiner comme un enfant, etc.
Oscar Wilde aussi qui disait les artistes et les enfants.
Ça, c'est la version positive. Hein, après.
Alors oui, non, après, il n'y a pas.
Je pense à Freud, l'enfant est un pervers
polymorphe, etc.
D'ailleurs, je souhaitais demander une précision. Vous parliez de justesse à l'instant, Cécile Bergam. Les tout petits, la petite enfance, c'est quel âge? C'est quand même savoir marcher? Donc c'est un an à peu près.
Alors ce qu'on appelle petite enfance, c'est le moment où l'enfant arrive au monde, hein, jusqu'à 3 ans, c'est-à-dire avant qu'il ne rentre à l'école. Voilà, c'est ce qu'on appelle petite enfance. Après, c'est pas, on va dire que
la socialisation a déjà fait ses ravages.
Ouais, voilà. Et puis c'est pas aussi tranché. Il y a des enfants qui rentrent plutôt à l'école, mais en fait, c'est avant que l'enfant entre à l'école.
Ah, c'est
une période bien particulière, qui est une période où il y a de multiples apprentissages, qui est de
basique.
La marche, qui est la parole, qui est de savoir manger tout seul, d'être propre, etc. Donc c'est une période assez intense en termes d'émotions.
Il peut quand même y avoir une socialisation, je crois, Gérald, une socialisation.
Oui.
On peut rentrer à la crèche tout de même, non? C'est ça?
Oui.
Et d'ailleurs, où les rencontrez-vous, ces publics? Dans des crèches, c'est ça?
Alors, dans les crèches, mais aujourd'hui, ils se déplacent aussi. Parce qu'dans les crèches, on n'a pas toujours l'espace. Donc, les enfants se déplacent. Alors, pas les plus petits. Hein. Quand je dis au moment où l'enfant arrive au monde, d'abord, il est avec ses parents les premiers mois. Et puis, les tout petits, on les déplace rarement. Mais aujourd'hui, il existe des festivals... toute petite enfance, toute discipline confondue. Donc les enfants se déplacent, vont au théâtre ou dans des salles polyvalentes ou à la médiathèque. Voilà, après, il m'arrive de me déplacer dans les crèches ou dans ce qu'on appelle les relais assistantes maternelles, qui sont des lieux où les assistantes maternelles se retrouvent de temps à autre. Voilà, pour échanger autour de leur pratique. Voilà.
Nous pourrions déjà basculer dans la partie de l'interview qui est ces jours-ci actuellement. Quel spectacle faites-vous? Je crois voir que sur le site, qu'à Montignac, justement, vous aurez plusieurs journées et notamment il y aura des temps avec des tout petits dans une crèche ou dans un espace justement de relais, vous dites?
Un relais assistante maternelle.
C'est prévu Montignac dans le 24.
Dordogne.
C'est dans la Dordogne.
Oui. à côté de la Reine d'Orniac.
Vous voyagez alors, Saint-Raphaël, la semaine prochaine, c'est ça, je crois. Il y a aussi, j'aperçois donc Corba dans deux semaines, Vichy aussi début mai, c'est très bien. Gérald, encore d'autres questions où je fais écouter, que nous as-tu préparé? Je crois c'est le temps des
yo-yos. Le temps des yo-yos, tant qu'à faire.
Donc oui, on lance.
Oui, ou cette phrase, le spectacle touche chez l'enfant des régions secrètes en lui qui n'ont rien à voir avec une compréhension intellectuelle. C'est peut-être ça la force de ce public spécifique, c'est son mystère et le fait qu'il soit si exigeant. Ça
ouais,
passe par d'autres.
Mais au fond, je pense que chez l'adulte, c'est la même chose, sauf qu'il il verrouille l'adulte.
C'est
voilà.
Ça.
C'est ça. Quand je dis que c'est un public rêvé, voilà, c'est ça. Au fond, il n'y a pas tellement de différence entre les
petits. Son surmoi, c'est trop développé.
Ouais, il y a quelque chose qui, il y a une espèce de chape comme ça qui est plus difficile. Voilà.
Il intellectualise tout.
Ouais, mais sinon, au fond, c'est la même chose.
Il n'est pas encore 2h30, chers auditeurs, et donc vous avez à peu près une grosse demi-heure pour retrouver l'enfant qui est en vous. Nous allons faire cela avec Cécile Bergame qui est avec nous et nous allons également peut-être réussir cette expérience avec le temps des yo-yo. Et puis,
une histoire d'amour malheureuse dans les premiers albums géniaux de Serge Gainsbourg, guitare-voix, jazz.
Le temps des yo-yo est désaccordé. J'ai mis mon banjo au temps des yé-yé. Le temps des yo-yo, c'était l'andante. C'est l'andantino, le temps des yé-yé. S'il me faut taire ma mélancolie, pourquoi en faire une maladie? Le temps des yo-yo tourne ses feuillets. Voici au verso le temps des yé-yé. Au temps des yo-yo, déjà je t'aimais. Je t'aime encore, oh, tant et tu le sais. Le temps des yo-yo nous aura bercé. Voici au berceau le temps des yé-yé. Mais si tout change, je n'ai pas changé. Et en échange, je t'ai retrouvé. Des yo-yo, je te reconnais. Viens incognito au temps des yé-yé, yé-yé.
Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2, en écoute aussi sur le blog internet, et nous écoutions à l'instant le temps des yo-yo. Une douce et belle mélancolie jazzistique d'un excellent album, un des meilleurs à mon goût, de Serge Gainsbourg, les années 60, Confidentiel, où vous avez que des tubes. Et bon, une petite chanson mélancolique.
Mais alors,
avec
pourquoi
Elek Bakshik à la guitare électrique.
Parce que
et Michel Gaudry à la basse. Et Gainsbourg à la voix quand il chantait.
Tout à l'heure,
bien.
Gérald, tu as questionné Cécile, tu lui as demandé pourquoi nous écoutions en début d'émission Jacques Prévert, mais là, Gérald, pourquoi as-tu choisi? C'est bien toi qui l'as choisi, le temps des yo-yo, ce n'est pas Cécile.
Oui, hein, c'était pour rigoler, c'était les yo-yo, ça m'amusait, c'est un jouet. Le temps des yo-yo et avant le temps des yé-yé, quoi. Alors maintenant, ça serait le temps des quoi?
Un jouet de la petite enfance.
C'est loin, les yé-yé.
Donc, c'est loin, ouais.
C'est le temps des bip-bip et des portables et de l'absence de la parole.
Gamme conteuse est encore avec nous. Elle a la parole pour justement, on ne va pas du tout la faire taire, on va au contraire la laisser parler. Et d'ailleurs, bien, je vous laisse. Est-ce que nous continuons un peu sur ce monde de l'enfance qui, j'ai cru comprendre, n'est pas un monde de bisounours, disiez-vous à l'instant, c'est ça, hors antenne? Oui, vous souhaitiez revenir un peu sur ce point. Parce que là, on pourrait évoquer plus précisément les spectacles, le dos d'une souris ou d'autres choses.
Mais... Oui, enfin, je voulais revenir là-dessus pour, parce que ça me paraît important. D'abord, le monde de l'enfance, sans parler de leur rapport. Enfin, sans parler de leur rapport à l'adulte, ils sont toujours dans un rapport à l'adulte, mais les enfants ne sont pas qu'innocents, mignons et gentils déjà entre eux. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis parce que c'est quelque chose qui m'interroge aussi sur la question de la cruauté, sur les obsessions de l'enfant, sur côté totalitaire aussi chez les enfants, voilà, qui je trouve, en tout cas qui m'interroge. Et puis après, effectivement, les enfants ne sont pas dans un monde. J'aime pas bisounours, hein. Ouais. J'aime pas les bisounours en plus. Mais effectivement, Rose, c'est-à-dire que très tôt dans leur existence, ils vivent souvent au rythme de l'adulte et très tôt on les, y a pas d'écoute. Voilà, il y a pas d'écoute, ce qui fait que ça crée des tensions, des crispations, et on va accuser l'enfant d'être capricieux, d'être, et au fond alors, il y en a, hein, des enfants.
Il y a même des abrutis chez les enfants.
Oui, il y a de tout. Mais je crois que le regard de l'adulte sur l'enfant, il est tronqué, il est rapide, on prend pas le temps. Voilà. Et puis, il y a cette chose où on embarque l'enfant très rapidement dans nos préoccupations, dans notre rythme. Et puis après, on se demande, on se dit, tiens, pourquoi il est comme ça?
Éponge,
ou pourquoi il fait ci? Ou pourquoi il réagit comme ça? Ou pourquoi il réagit pas? Après, on se demande pourquoi. Voilà. Voilà.
Alors la parole.
Un peu rapide. Hein. Alors la place de la parole. Oui,
Formatisation de l'imaginaire, la Disneyisation.
C'est vraiment une question qui est à l'ordre du jour pour moi en tant que conteuse, c'est-à-dire de me questionner aujourd'hui, c'est quoi la place de la parole? Qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport au récit, hein, que je raconte, mais simplement cette parole qui porte la symbolique, cette parole qui ouvre l'imaginaire, cette parole qui crée ce qu'on appelle l'image mentale, cette parole qui nourrit, qui ouvre, qui fonde la conscience, enfin en tout cas je l'espère, et à quel endroit cette parole-là peut grandir, et en fait il y en a, je me rends compte qu'il y en a pas beaucoup. Alors moi effectivement dans ma pratique je crée, je provoque avec les gens avec qui je travaille, hein, c'est-à-dire les lieux qui m'accueillent, toutes les personnes qui participent à créer ce genre d'événement. Mais au fond je me dis, quand est-ce que l'on se retrouve dans ces espaces-là, c'est-à-dire de paroles qui ne sont ni des paroles, ni des discours, on va dire, politiques, médiatiques, économiques, ni des paroles d'injonction, ni des paroles qui sont là pour ne rien dire, hein, quand on dit tu parles pour rien dire, c'est-à-dire où sont les paroles où on peut être véritablement dans un échange, où on peut exprimer des émotions, où on peut dire ce qui est difficile à dire, où on peut parler de tabous, où on peut, finalement, je me rends compte qu'il y en a peu. Il y en a peu, et non seulement il y en a peu, mais là où on peut penser que aujourd'hui on peut tout dire, on peut tout exprimer, au fond c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de radicalisation un petit peu des choses qui fait que c'est de plus en plus difficile au fond d'exprimer et de créer des espaces d'écoute. Voilà, du coup ça, aujourd'hui ça donne ça me donne un vrai sens dans ce que je fais. Voilà.
C'est de la résistance, finalement, tout ça.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, vous faites aussi de la formation et vous avez commis aux éditions Polichinelle une série donc de littérature jeunesse, de livres musicaux, avec des collaborateurs, des illustrateurs, des musiques. Alors, je vois quatre titres là, sous les yeux, sur le dos d'une souris, livre-disque chez Polichinelle, avec...
Chez Didier Jeunesse, Polichinelle, voilà. C'est le nom de la collection.
Ah, pardon, avec Cécile Udrisier qui illustre et le... musicien Timothée Joly qui est pianiste, je crois. Ensuite vous avez fait une deuxième collaboration Oïs Petit Escargot, une troisième Bonne Nuit Petit Kaki, toujours les mêmes auteurs, et Le Gâteau de Wistiti, encore les mêmes auteurs, et enfin Les Géants et d'autres éditions qui ne sont pas musicales, et Petit Trou est-ce que vous, aux éditions Lirabel et aux éditions La Grande Fabrique, Les Géants, vous pourriez parler de la dimension éditoriale de votre travail?
Alors, comment dire ça? En fait, j'ai toujours écrit, mais pas pour être édité. Hein. C'est-à-dire, j'ai toujours griffonné des carnets. Il y a toujours eu chez moi un besoin de coucher sur le papier des bribes, hein, des choses comme ça qui me traversaient l'esprit, des choses qui parfois n'avaient ni queue ni tête, mais un besoin de déposer. Voilà. Et puis. Après, plus tard, quand j'ai pu mettre en forme, j'ai commencé à écrire des histoires, mais sans prétention, sans d'ailleurs les partager. Je crois qu'au fond, ce que j'ai toujours aimé, c'est de raconter des histoires. C'était simplement, et sans doute que ça, c'était une façon pour moi de me dire je suis vivante, ou je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce besoin de raconter des histoires.
Mais attention quand même, le terme peut être péjoratif, l'expression en français est péjorative, non? Allez, arrête de me raconter des histoires. Alors,
oui. Oui,
comment vous placez avec
oui, mais justement, mais quand arrête de raconter. Alors. Quand on dit arrête de raconter des histoires, c'est arrête de raconter. Ben justement, c'est arrête de raconter, de dire n'importe quoi. Moi, je pense que justement, on a besoin. Enfin, c'est important aussi de se raconter des histoires, de raconter des histoires, même des histoires complètement abracadabres ou des histoires de nourrice aussi, hein, parce que ça aussi c'est péjoratif. Parce que c'est un moyen aussi, c'est un moyen de se nourrir autrement. C'est peut-être un moyen de d'éclairer nos réalités autrement, c'est-à-dire que de raconter toujours la réalité réelle. Parfois, ça ne dit pas grand-chose et parfois d'aller dans l'imaginaire permet. Peut-être de se questionner autrement ou de porter un regard autrement sur les choses et peut-être pour mieux voir nos réalités. Donc je trouve que d'être parfois dans quelque chose de décalé, qui serait pas la réalité réelle, mais d'aller dans le décalage et dans des histoires à dormir debout, ou des histoires de nourrice, ou simplement de laisser partir l'imaginaire et sans que personne ne vienne vous dire c'est des histoires abracadabrantes, débiles, ou tu racontes n'importe quoi. C'est aussi une façon d'aller vers sa liberté, voilà, tout simplement.
Je trouve ce que vous dites, mais véritablement, prodigieusement fascinant. Néanmoins, moi, j'aurais cette simple réserve que je n'ai pas. Vous prêchez un convaincu, un converti, mais que dire justement à ces personnes qui estiment que non, et il n'y a là aucun besoin, que vraiment, il n'y a que le réel qui vaut, et je pense pour ce qui est des adultes, à tous ces discours politiques, économiques, ou je ne sais quoi, mais pour d'autres personnes également. Que dire parce que moi, il me semble que ce que vous dites là, ça indique bien, enfin, il y a un besoin de l'esprit humain qui est, vous avez parlé de se nourrir, ben voilà, à côté des nourritures, à côté du pain, et puis, je ne sais pas, moi, de la viande ou n'importe, et encore, il paraît qu'il y avait un documentaire très intéressant ces jours-ci sur, on mange n'importe quoi pour ce qui est de la viande, donc il faut peu en manger, 3 fois par semaine ça suffit. Donc bref, pour ces nourritures spirituelles, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a, comment dire, auriez-vous eu des lectures, ou est-ce qu'il y a des intellectuels, ou je ne sais pas comment formuler la chose, est-ce qu'il y a un vrai bagage scientifique qui dit effectivement qu'il y a un besoin, ou est-ce que vous le sentez? Et moi, en ce cas, enfin, je suis d'accord avec vous, mais ça me gêne parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de très net qui signifie oui, il y a besoin, là, il faut quelque chose.
Moi, je ne suis pas une intellectuelle, donc je ne me suis pas dit il y a un livre. Moi, je l'ai senti toute petite, c'est-à-dire que très tôt, j'ai dévoré les livres. Voilà, il y a une rencontre avec la littérature, de tout. Et très rapidement, j'ai senti, plutôt que compris, c'est pas, quand je dis c'est pas intellectuel, c'est-à-dire que j'ai senti que ça œuvrait quelque part, ou je sais pas, dans mon cœur, dans ma tête, et que la lecture m'embarquait quelque part, enfin dans des endroits qui me réjouissaient. Alors évidemment, je passais par tout un tas d'émotions. J'avais le sentiment que l'auteur me parlait. Je voyais des images, et donc au fond, alors peut-être que ça m'a enfermé aussi d'une certaine façon. Ça m'a mis dans une espèce de bulle, mais c'était extrêmement plaisant. C'était même plus que plaisant, c'était fascinant, c'était énorme pour moi la lecture. Quoi. Ça a provoqué quelque chose de prodigieux. C'était aussi pour moi une façon de m'affranchir d'un certain nombre de choses qui me plaisaient pas dans ma réalité. Alors, peut-être aussi une façon
c'est une
de
grande
m'échapper.
Fonction de la littérature, ça.
Oui,
et
mais
de l'art en général.
C'était voilà, j'avais,
illusion,
j'avais l'impression
salvatrice.
Qu'on parlait. J'avais l'impression aussi que d'entendre des mots que moi je ne pouvais pas formuler parce que j'avais pas les mots pour le dire. Et je me dis c'est extraordinaire. Cette personne, elle parle exactement comme moi je voudrais parler. Enfin, voilà, c'est alors donc non, c'est plus du ressenti. Après, enfin. Les adultes qui sont, quand vous dites qu'il y a des adultes qui sont très pragmatiques, ça c'est là, ça c'est ce que l'on voit ou ce qu'ils nous disent. Mais au fond, on a tous.
Je pense à des enfants aussi, des enfants qui disent mais j'aime pas lire, j'ai pas envie de lire. De toute façon,
oui,
je lirai pas.
Oui, mais au fond, on a. Je pense que chacun d'entre nous, on porte des endroits. Inavoués, et c'est très bien d'ailleurs, inavouables, sombres, et qui ont à voir avec le registre des émotions et qui ont sans doute à voir avec l'imaginaire. Hein, ça peut être tout ce qui a à voir avec la pulsion, avec les fantasmes. Avec... Et ces choses-là, elles sont pas forcément dites, elles sont pas forcément formulées, mais en tout cas... je crois qu'on porte tous en nous quelque chose qui a à voir avec... avec comment dire ouais le rêve le l'imaginaire le même si on n'a pas envie de se l'avouer. Bon après j'essaie pas de convaincre quand je dis ça hein, non, mais sûr, me, ouais. par exemple je suis allée jouer il y a quelques semaines au théâtre Jean Marais à Saint-Fons pour des classes de CM2, 6e, 5e voilà qui étaient assez plein de vitalité on va dire
spontané
et j'étais toute seule face à 140 gamins il y a 5 représentations je crois assez survolté et d'autant en plus je suis venue remplacer un spectacle qui s'est annulé, un gros spectacle avec technique etc, et moi je suis arrivée toute seule sans rien, pas de
sans régisseur lumière,
sans
musicien,
rien, voilà, enfin quand je dis
un
rien
micro, peut-être.
Non, même pas, juste la parole, mais la parole c'est pas rien justement,
oui, c'est tout.
Je pense entre autres à la dernière représentation où les gamins sont arrivés mais vraiment surexcités, survoltés, voilà, ça a été difficile de les placer et en fait j'ai réussi à les rencontrer, c'est-à-dire qu'on a réussi à se relier. Alors je suis arrivée sur le plateau, ils ont poussé des cris avant même que j'ouvre la bouche, et puis il y a un moment il s'est passé quelque chose, donc, et je suis sûre que ces gamins d'ailleurs dans la présentation je l'ai senti, c'est-à-dire qu'on leur dit ben voilà, il y a une dame qui va venir vous raconter des histoires voilà, et ça fait des histoires n'importe quoi, et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Donc, quand on peut être très, on va dire, j'aime pas les histoires ou c'est des histoires de nourrice ou je suis très pragmatique, moi. Et en fait, il y a quelque chose en tout cas dans ces récits. Puis après, il y a aussi le conteur, hein, c'est-à-dire dans, évidemment dans sa présence, dans la façon dont il porte le récit, la façon. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Malgré tout, donc voilà.
Et ça s'est bien passé, ils ont écouté,
ça s'est très bien passé.
Un bel échange,
oui,
ils étaient contents.
Oui, mais non seulement ils étaient contents, mais ils sont venus me remercier, me serrer la main. Et il y a même une gamine qui devait être en 6e, je crois, ou CM2, je ne sais plus, qui m'a demandé si c'était vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai semé le trouble. Mm-hmm. Et ça, je me suis dit, bon ben voilà.
C'est gagné.
Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire... moi, en même temps, quand je regarde notre société, je dis, oulala, on marche à l'envers. Et en même temps, je me dis, quand même, il y a des endroits encore dans notre humanité. Il y a des endroits qui sont encore... on peut encore toucher. Voilà, voilà. Et ben voilà, là, quand je dis, elle m'a demandé si c'était vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai troublé quelque chose. Voilà, elle est repartie. Donc ça, c'est intéressant. Mm.
Chasse à l'enfant, Gérald. Oui.
Non,
est-ce
bonjour.
Que non? Autre chose. Élise Caron.
Allez.
Bah alors, attends, moi j'avais préparé Chasse à l'enfant.
Chasse à l'enfant. Je connais pas le morceau, mais le titre m'a plu. Chasse à l'enfant. Après.
Bon ben Chasse à l'enfant. De toute façon, c'est très court. Et ensuite nous continuons.
On reviendra sur les publications.
Bon, nous sommes toujours sur Radio Canu avec Cécile Bergame. C'est intéressant d'écouter un invité parler et tenir en plus des propos qui sont eux-mêmes très intéressants. Fascinant, j'ai dit tout à l'heure, je ne retire nullement ce terme. Écoutons, je me tais, chasse à l'enfant, de toujours un Jacques Prévert avec les frères Jacques.
Peut-être les frères Jacques.
Non, c'est bien ça.
C'est que ces hurlements.
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit,
voleur, schnappant.
Ces messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le
Il ne faudrait même pas qu'il y ait de moments hors antenne et qu'on passe de la musique. Chasse à l'enfant, pourtant, c'était intéressant. Maison de redressement et différentes choses. Nous étions à l'instant, hein, Gérald, dans une grande conversation sur comment déclencher l'imaginaire chez les enfants. Non, c'était même pas la question. C'était plutôt ces enfants qui finalement, on se rend compte à l'âge de quoi, 10, 11, 12 ans, n'ont pas grand-chose à dire parce qu'on ne suscite pas assez la parole chez eux, c'est ça? C'est enfin que comment.
C'est pas qu'ils n'ont pas grand-chose, c'est que. C'est pas qu'ils n'ont pas grand chose à dire.
Ils ne peuvent pas, disons.
Oui, il n'y a pas l'espace. Et puis, quand on est uniquement dans le, on est dans une société de l'écriture et pas du tout.
Et même du visuel, du consumérisme. C'est même plus de l'écriture parce qu'ils savent plus écrire non plus. Donc,
l'écriture,
c'est perdu encore. C'est en train de se perdre.
Aussi,
je vais faire mon vieux réactionnaire.
Tu interromps, je te remercie, Gérard.
Tu
interromps Cécile Bergam, notre invitée conteuse aujourd'hui.
Mais pas que les enfants, hein. Simplement de formuler, c'est-à-dire d'être précis. Dans sa pensée et de pouvoir mettre des mots sur sa pensée. Mais je ne parle pas que des enfants. Il y a, au fond, les gens qui y arrivent bien, ce sont les politiques, mais qui se forment pour ça, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le discours ou les médias, hein, les journalistes, la publicité, mais à un moment donné, d'être capable de prendre la parole et de dire justement sa pensée. Mmh. Donc c'est pas que les enfants, c'est alors du coup on s'exprime autrement, soit en récupérant, soit avec violence, soit
c'est ça, c'est
voilà.
Souvent la violence.
Bah oui.
Et alors donc votre rôle dans tout ça, Gérald, tout à l'heure vous faisiez parcourir plus ou moins votre politique, c'est ça, c'est le terme que tu as employé, votre politique éditoriale. D'ailleurs il y a une petite maison que vous souhaitiez évoquer, la Fabrique,
oui,
qui ne publie
Fabrique,
plus actuellement,
oui,
aussi.
Plus
maison d'édition locale.
Oui, ils sont dans le premier et Non, alors il travaille toujours entre eux dans la musique et puis dans le dessin, mais pour l'instant ils ne sortent plus d'ouvrages parce que c'est
trop dur.
C'est compliqué pour une toute petite maison d'édition.
Économiquement, voilà. Parlant.
Et vous avez travaillé avec eux.
Et donc j'ai sorti un livre avec eux il y a quelques années qui s'appelle Les Géants. Voilà.
Illustré par
Yolande Six.
Six. C'est important, l'illustration, pour ces livres. Oui, s'il n'y avait que du texte, ça n'irait pas. Il faut que ça s'adresse certes aux parents, mais également à l'enfant.
Non, il se trouve que moi, j'écris pour la littérature jeunesse plutôt jeune, on va dire. Donc, c'est sous forme d'album illustré. Après, non, c'est pas plus important. Mais au même titre que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas d'illustration dans la littérature adulte. Ou beaucoup moins qu'avant, par exemple. Non, non, moi je trouve que tout est bon, tout est intéressant. C'est-à-dire les livres sans images, les images sans texte, les textes avec images, les images qui plaquent pas forcément au texte, ça aussi c'est plutôt, je trouve que c'est plus intéressant. La photo, par exemple, je déplore qu'en littérature jeunesse, il y ait très peu de photos. On travaille beaucoup avec des illustrateurs, avec le graphisme, mais très peu avec la photo. Je trouve que c'est dommage. Donc non, il n'y a pas plus. C'est simplement que moi je travaille avec des maisons d'édition qui travaille avec des illustrateurs, voilà. Donc,
Ça se passe comment la rencontre concrètement? Vous proposez un texte, c'est la maison d'édition qui vous propose un illustrateur ou ce sont des rencontres de personne à personne?
Alors en tout cas pour chez Didier Jeunesse, chez Lirabel, il n'y a pas de rencontre avec l'illustrateur. Ils ont leur illustrateur qui définit, on va dire, leur ligne éditoriale. Alors après ça peut changer. Et une fois que le texte est envoyé, une fois que tout cela est validé, entériné, ils choisissent l'illustrateur qui leur paraisse le plus, je veux dire,
adapté au texte.
Le plus adapté au texte, voilà.
Et le texte, parfois, on vous a demandé de réécrire un texte, changer la fin, de changer des choses parce que ça n'allait pas, ça convenait pas à la maison d'édition.
On peut demander. Alors, enfin, ça dépend. Alors après, moi, je change pas. Enfin, dans une certaine mesure, c'est que je veux bien changer une formulation, quelque chose comme ça, mais de changer la fin ou l'idée, non, non. Donc voilà, non, ça s'est pas passé.
J'y pense comme ça. Où puisez-vous l'inspiration de vos contes? Donc l'un des spectacles à venir, enfin du moins qui est déjà un spectacle qui a une certaine, enfin vous avez une expérience là-dessus, sur le dos d'une souris, c'est ça? C'est ce qui sera à Corba.
Ouais, sur le dos d'une souris, c'est un spectacle donc destiné aux tout petits qui existe depuis de très très nombreuses années et qui tourne encore parce qu'il est destiné aux tout petits. Donc
je me suis trompé d'ailleurs, pour voilà. Corba ce sera plutôt Chapeau de beurre et
celui
de
chapeau
verre.
Chapeau de beurre c'est pour les plus grands,
un peu plus grand, voilà. Et donc sur le dos d'une souris qui sera à Saint-Raphaël,
voilà.
Et puis au Polaris de Corba, et un peu plus tard à Montignac ce sera, mais c'est quand même loin Montignac pour Radio Canus, c'est quand même local. Donc ouais, Vichy et Montignac, ce sera à nouveau sur le dos d'une souris. Il y a aussi Papotage nocturne. Les spectacles donc sont en fonction de plus ou moins des âges, c'est ça?
En fait, c'est des thématiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses que j'ai envie de, sur lesquelles j'ai envie de travailler, des thématiques, et puis après, il se trouve que il y a des choses qui correspondent à une certaine tranche d'âge. Après, je suis toujours un peu, j'aime pas cliver, c'est-à-dire comme ça en disant, mais en même temps, ça fait partie aussi de non-réalité, hein. C'est-à-dire qu'on va nous demander, bon, c'est pour quelle tranche d'âge tu crées un spectacle? On dit, bon, alors c'est pour quel âge? Donc, du coup, on fait le jeu et on est là-dedans. Mais au fond,
on connaît le meilleur clivage, c'est celui de Spirou, c'est ça? C'est de 7 à 77 ans. C'est un peu le vôtre aussi. Quoique, non, vous, c'est moins de 7 ans même.
Alors après, on est pris un peu là-dedans. C'est vrai que parfois, j'ai véritablement envie de m'adresser aux petits. Au fond, j'ai envie de m'adresser peut-être à une tranche d'âge, mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que quand je m'adresse aux tout petits, je m'adresse aussi, bien sûr, et peut-être, au fond, avant tout, aux adultes. Je me dis que parfois, c'est peut-être un prétexte pour moi de dire je raconte aux petits ou aux tout petits. C'est peut-être une façon pour moi de faire passer des choses, d'interroger l'adulte. Mais ça, c'est quelque chose que je, voilà, que je, que je me suis dit un jour, mais c'est peut-être pas si faux que ça.
Et voilà. Bien alors, un exemple, donc je vous ai interrompu il y a quelques instants sur le dos d'une souris. Sur le dos d'une souris. Vous étiez, oui, en train de commencer à évoquer un petit peu l'inspiration ou je ne sais, est-ce que, ou je ne sais quoi, est-ce que vous avez, est-ce que là vous l'auriez cerné le message ou ce que vous auriez à dire aux parents à travers ce prétexte.
Alors, il n'y a pas de message. Moi, j'aime pas le message, oui, parce qu'il y a aussi quelque chose de dogmatique, oui, comme, oui, ça. Il y a une matière, on va dire, il y a une matière narrative, on va dire. Il y a quelque chose qu'on appelle après spectacle, mais ça, c'est la forme. En tout cas, il y a une parole, voilà, qui est singulière. Voilà. Et après, avec dedans évidemment de la symbolique, de la poésie, du rythme. Et après, chacun, en cela, il y a quelque chose complètement polysémique, je pense. Chacun prend en fonction de là où il en est dans sa vie, de son âge, ce qu'il a envie de prendre. Il n'y a pas de message. Moi, je sais simplement que cette parole-là, elle est forte, elle est puissante. Et après, elle a à voir avec notre intime et aussi avec un caractère universel. C'est-à-dire, quelque part, elle nous raconte à tous quelque chose qui nous parle à tous et aussi à notre intime. C'est tout ce que je sais, moi. Après, j'essaie pas de dire il faut penser comme ça ou il faut.
Non, bien sûr.
Comme ça.
Mais, et donc, un exemple. Alors, quelle est-elle, cette parole sur le dos d'une
souris? Sur le dos
d'une souris.
Alors, la thématique, je suis quand même partie d'une thématique. J'avais envie d'évoquer l'idée ou la question de la séparation. Voilà. De l'abandon, de la disparition. Alors, je m'adresse à des tout petits. C'est on est où quand on n'est pas là? C'est-à-dire que quand je vois plus maman, elle est où? Est-ce qu'elle a disparu pour toujours? Est-ce qu'elle va revenir? Quand je me cache et quand je reviens, au fond, je fais l'expérience de quelque chose qui disparaît et pour me soulager, je me cache et je reviens. Donc ça me rassure. Voilà. Donc c'est un spectacle. Qui porte sur cette question de la séparation, de la peur de l'abandon au fond, mais qui sont des choses au fond très archaïques, hein, l'abandon, se retrouver seul, la solitude,
le syndrome d'abandon.
Et vos sources alors pour ce conte-ci précisément?
Alors c'est pas un conte, hein, un spectacle dans lequel il y a plusieurs récits.
D'où viennent-ils? C'est
alors il y a des récits. J'ai un attachement très fort pour ce qu'on appelle la comptine, le jeu de doigts, donc toutes ces récits que l'on adresse aux enfants tout petits dès leur arrivée au monde, quand on les berce, quand on a envie de les rassurer, quand on a envie de leur raconter, en tout cas qui aborde des thèmes qui sont pour moi fondamentaux, qui sont justement la séparation, le fait de manger, le fait de se séparer, la famille, la place de chacun dans la famille. Donc j'aime bien ce répertoire là parce qu'il est en même temps, il est très court, il est très rythmé, il est en même temps il est aussi important dans le sens, dans ce que ça raconte, que dans la forme. C'est-à-dire que le principe de la comptine, on est dans la répétition. On peut aller dans des choses très absurdes. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Desnos, des gens comme Desnos, Prévert, peut-être pas Prévert, mais Roubaud ont écrit plein de petites comptines, plein de petites choses, petits textes comme ça, mais même Prévert d'ailleurs, qui sont vachement beaux, qui sont pleins de poésie. Donc moi, j'aime bien ces petits récits. Donc dans Sur le dos d'une souris, il y a des comptines traditionnelles. Alors après, que j'ai revisité avec le musicien, voilà. Et puis il y a des textes que j'ai écrits. Voilà. Puis il y a des chansons. Et puis il y a un fil, voilà, il y a un fil conducteur. C'est-à-dire, il y a l'histoire d'un personnage. Dans cette histoire, il y a de temps à autre des petites comptines, des petites histoires dans les histoires. Un peu comme dans Les Mille et Une Nuits, mais de façon beaucoup moins compliquée. Voilà.
C'est écrit hein, sur votre site, le récit est simple, très proche des préoccupations quotidiennes des petits. La peur de l'abandon, la peur du noir, l'attente, la faim, les bobos, l'amitié, le besoin de tendresse. Ce bel album CD est tout à la fois à écouter, à raconter et à essayer. À la fin de l'album, les parents éducateurs trouvent des explications sur les gestuelles des comptines.
Voilà, c'est ça.
Élise Caron, oui, non ? Allez. Est-ce que nous écoutons...
Alors une autre, hein, toujours Élise Caron, dont on parle souvent, qui a créé un album qui s'appelle Album pour les petites oreilles. Et voilà quelqu'un qui écrit de la musique pour les enfants, mais qui peut être écouté par les adultes, qui ne fait pas ce clivage un peu absurde et bête parfois. On va dire qu'il y a une grande partie quand même de la production pour les enfants, qu'elle soit audiovisuelle, littéraire, qui est quand même bêtifiante, il faut bien le dire. Mmh. Gouzi-gouzi et tout ça. Oui. Et des fois, c'est dommage, quoi.
C'est dommage. D'autant que les enfants, ils peuvent tout écouter. Hein,
c'est ça.
Du John Cage, tout à l'heure, on en parlait, du Steve Reich. Ils ne font pas la différence. Hein. Ils ne font pas la différence, les enfants. Il n'y a pas de...
Je pense qu'ils auraient adoré ce qui s'est passé hier à l'opéra.
Ça va être compliqué, hein. Il nous reste quoi, 3-4 minutes.
Ah, 3 certes, minutes, ça
il,
suffira.
Il n'y aura pas le blues des canuts, puisque Pascal m'a dit qu'il
ne sera pas là. On pourra grignoter 5 minutes au blues des canuts pour parler de l'excellent drumming live.
Pascal, si tu nous écoutes, tu nous pardonnes cela, mais promis, on te lâchera 5 minutes aussi une prochaine fois.
Voilà.
On écoute Bonjour d'Élise Caron, vous êtes toujours sur
Album pour les petites oreilles.
Vous avez bien raison.
N'importe qui, les n'importe comment. Bonjour les rats bougris, les rats des champs. Bonjour les guiliguilis, les gousigousis, les bigoudis, les frisottis. Bonjour les gribouillants, les barbouillants, les dégoulinants, les dégoulinis, les dégoûtants. Bonjour. Les vendredis, les samedis. Bonjour les toboggans, les cardigans, les élégants, les brigands, les gants, les extravagants. Bonjour les barbies, bonjour les barbants, les radis, les maris, les marrants. Bonjour les gentils, les méchants. Bonjour les ours blancs, les orangs-outans. La pluie, le vent. Bonjour les cerfs-volants, les chauves-souris. Bonjour les endormis, les bois dormants. Bonjour les éléphants, les enfants, les serpents, les fourmis, les fourbis, les tournis, les tournants, les étourdis, les amis, les parents.
C'était donc Élise Caron, Bonjour, le premier morceau d'un album concept dessiné aussi d'ailleurs, il y a même des activités ludiques à l'intérieur d'une pochette, c'est un bon succès quand même de librairie, ça doit être le 6e ou 7e album d'Élise Caron pour les enfants, entre autres, les enfants de 7 à 77 ans comme on disait, Chanson pour les petites oreilles, un album de 10 morceau qui finit avec Bonsoir, J'aime pas la guerre, Chanson chuchotée, L'oiseau et la poupée, Je me préfère à l'envers, Princesse grenouille, Jacques à 100 ans, Berceuse, Le dragon et le petit garçon. Donc Élise Caron, texte, musique, chant, flûte, piano, polyinstrumentiste, grande chanteuse, Christine Chazelle, piano, et Michel Musso, piano jouet et scie musicale. Les chansons pour les petites oreilles ont été écrites comme un pont entre l'enfant et l'adulte, l'œuf et la poule, le coq et l'âne, le fou et le sage, un pont musical et poétique, complexe et naïf, un discours d'enfant qui a grandi et qui chante sa philosophie. Vaste programme.
C'est bien de parler de philosophie, parler des enfants et de la philosophie.
Ah oui, il devrait en faire d'ailleurs.
Cécile Bergam est encore avec nous, alors que ciel, mon Dieu, il est 15h, le blues des canuts devrait commencer. Non, le blues des canuts n'est pas de Pascal aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine et encore, c'est pas sûr non plus, ni la suivante. Néanmoins, nous pensons bien à Pascal, on va écouter non pas du blues, on va écouter quelque chose qui est sur scène ces jours-ci et qui pourrait plaire à Cécile Bergam,
vous.
Parce qu'il y a du Steve Reich, il y a de la danse, il s'agit de drumming, écoutons un peu les percussions qui ouvrent le spectacle et puis ensuite, petit compte-rendu Gérald.
Très rapide.
On va voir ça, oui. Ah non, je me trompe, zut, c'est pas ça. Ouais, quand ça commence, c'est très sec, je trouve. Vous allez entendre ces percussions particulières.
On était à la première derrière, on va le dire d'ailleurs.
Gérald, eh bien, je t'en prie.
Eh ben voilà, donc tu chantes, tu laisses un peu en fond, que les gens écoutent. Et ben voilà, on a eu la chance d'être invité hier soir à l'Opéra pour la première, à l'Opéra de Lyon. C'est du 7 au
11 avril.
11 avril.
Samedi 11, 20h30, tous les
jours.
Il
y a deux équipes de 12 danseuses et danseurs. Donc, une première équipe le 7, 9 et 11, et une autre alternative le 8 et 10. Ça fait beaucoup de monde.
Et se trouvent aussi sur scène.
Eh ben, les musiciens.
12 également.
En live, 12 musiciens. Donc, c'est très structuré. Donc, c'est le grand compositeur minimaliste américain Steve Reich.
Qui a composé cette partition dans les années 80, je crois.
Dans les années 70-71, pour percussion et voix, avec une soprano et une mezzo-soprano.
En quatre parties.
Avec des marimbas, des xylophones, etc. En quatre parties. Donc le principe de la musique minimaliste américaine.
On peut l'entendre là, je crois.
Des déphasages, des boucles répétitives. Alors bon, la chorégraphe Anne-Theresa de Kirchmaker n'est pas à son coup d'aisselle, avait déjà... on va dire chorégrafier
Phase, il me semble,
l'album concept,
Rain, je sais
voilà,
plus lequel.
La musique Phase.
Dans les années 80. Ce ballet date de 1998. C'est une première à Lyon, hein, je crois.
Oui,
c'est...
et puis elle va être intégrée
au répertoire.
Et
il y a également d'autres pièces de Anne-Theresa de Kirchmaker qui seront données. Que dire de ce spectacle en deux, trois mots, Gérald ?
Hyper structuré, hypnotique, hypnotisant, fascinant, de l'énergie pure, frénétique, mais très organisée. C'est scotchant, quoi. Ça dure une heure, on voit pas le temps passer, ça fuse de tous les côtés. La chorégraphie est millimétrée. Bon, on est toujours impressionné de.
Il y a des groupes,
justement,
des
par la mémoire des corps, cette mémoire corporelle que seuls les danseurs, les grands danseurs ont la capacité d'avoir, de mémoriser une telle précision dans le déplacement sur la scène, qui est quasiment vide, d'ailleurs, la scénographie est très limitée. Il y a un rouleau final. Bah, j'ai le droit de raconter. J'ai révélé la fin.
C'est pas grave.
Donc, un ballet incessant de groupes, de portées. Il y a très peu de danse au sol, contrairement à d'autres spectacles que Anne-Theresa de Kirchmaker avait fait. Et là, c'est de l'énergie pure de déplacement. Je sais pas trop qu'en dire. Il faudra un vocabulaire adapté, mais on se rattrapera à une prochaine émission puisqu'on aura la chance de recevoir des chorégraphes pour
on
un
devrait,
autre spectacle.
Il y a deux émissions à venir après.
Et une journaliste spécialiste de danse que je salue si elle nous écoute ou elle nous réécoute.
Cécile Bergam est encore avec nous. Est-ce qu'on pourrait peut-être la faire participer pour terminer cette émission? La danse, je crois, Cécile, ça vous parle, non?
Oui, oui. J'aime beaucoup la danse. Hein, c'est peut-être quelque chose que j'aurais choisi. Comme métier, bon, ça s'est pas fait. Donc oui, effectivement, depuis toute petite, en fait, j'ai commencé à faire de la danse et en faire beaucoup. Et puis voilà, et puis j'ai continué à en faire jusque très longtemps. En tout cas, c'est quelque chose. On parlait du langage du corps, la mémoire du corps. C'est quelque chose qui participe à ma pratique, c'est-à-dire que je raconte beaucoup avec le corps. Voilà, le rapport à l'espace et le rapport au corps est quelque chose de très important pour moi. Voilà. Mmh.
C'est un vrai plaisir, auditeur, de voir Cécile Bergam évoluer dans l'espace de la radio. Il y a effectivement une certaine grâce, une élégance. Que vous soyez tout petit ou pas, vous pouvez voilà. Donc voir ces spectacles. On va indiquer le lien du blog Accord Bouillon, tout accroché. Ouais. Point, je crois, W.
Oui, X, mais en fait, il suffit de taper Accord Bouillon ou Cécile Bergam.
Et vous aurez les dates. Les prochains spectacles pour la faire venir dans les différentes institutions.
Absolument.
J'ai du moins scolaire.
C'est le.
Et puis précipitez-vous pendant qu'il est encore temps, voire.
J'ai coupé un instant, Gérald, ce que tu disais, parce que je souhaitais lancer Massive Attack. Cécile Bergam, elle nous a même dit tout à l'heure apprécier Massive Attack, c'est incroyable.
Ouais, j'adore.
C'est génial. Donc, Cécile, vous avez une actualité qui est à retrouver sur le blog, sur votre site.
Oui.
Vous avez des dates qui sont jusqu'au mois de mai, il me semble.
Oui, après, même juin, relâche, mais c'est loin, au mois de juin.
Bon, ce sera loin. De toute façon, c'est dans toute la France. Nous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, le 15 avril, nous faisons relâche, mais. Et le 22, nous devrions être présents pour un spectacle qui sera donné à la fin du mois d'avril au Théâtre de la Croix-Rousse. Peut-être est-ce Sébastien Derain lui-même qui viendra pour parler de ce Purcell, un spectacle très particulier, bande dessinée aussi,
ah oui, bande dessinée,
différentes choses. Sinon, Auditeurs, si le mardi 14 avril vous êtes du côté du Café de la Danse à Paris, eh bien allez donc voir les variations Goldberg de l'ensemble Ictus, non, l'ensemble Tactus. L'ensemble Ictus, c'est celui qui était sur scène hier pour jouer le drumming live de Anne-Thérèse de Kersmaker. L'ensemble Tactus que nous avons reçu il y a deux semaines avec Jean Geoffroy sera présent à Paris pour le lancement de leur album Variations Goldberg. Ce sont encore des percussions, c'est très bien. Gérald, un dernier mot.
Si vendredi soir vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous au café mythique de l'autre côté du pont pour un concert de Dialek, 25 cours Gambetta.
Bon, nous mettrons toutes ces précisions sur le site. Il est temps de vous dire, chers auditeurs, que vous n'êtes pas en train d'écouter le blues des canuts parce que Pascal n'est pas là aujourd'hui. Vous le retrouverez peut-être la semaine prochaine ou une autre fois. Il est temps de dire au revoir à tout le monde et de dire aussi restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Au revoir Cécile.
Au revoir, merci.
Au revoir. Je crois que le méga combi arrive tout à l'heure. Voilà, je ne sais même plus que dire. J'ai l'impression d'avoir du temps puisque Pascal n'est pas là. Non, il n'y a plus de temps. Restez à l'écoute de Radio Canu. Ciao tout le monde.
Rideau du spectacle.
Chaussures, c'est quand c'est du sur-mesure qu'on vous la met dans la